France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
On a appris hier soir la disparition de l'un des plus grands historiens français, l'académicien et éditeur Pierre Nora, disparu donc à l'âge de 93 ans, architecte notamment d'un grand œuvre, Les lieux de mémoire, qui ne représente pas moins de 7 volumes. Il a été directeur d'édition chez Gallimard avant de fonder à la fin des années 60 deux collections majeures dans le champ de la recherche, la Bibliothèque des sciences humaines et la Bibliothèque des histoires. Nommé directeur d'études à l'EHESS en 1977, fondateur de la revue Le Débat en 1980, il devient membre de l'Académie française en 2001. Pierre Nora portait l'ambition de la diffusion du savoir, de la consolidation de la nouvelle histoire, de la vie vécue et perçue à travers les sciences humaines et sociales. Alors, comment a-t-il apporté à l'histoire ce qu'il était ? Ce soir, dans Question du soir, Pierre Nora, la mémoire de la mémoire, grâce à 3 historiens. Anne Simonin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne au CNRS. Nous serons rejoints par ailleurs dans quelques instants par Christophe Prochasson, historien, président de l'École des hautes études en sciences sociales. Et nous aurons un échange en fin d'émission avec l'historienne, la grande historienne, Mona Ouzouf. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je pense que j'ai vécu une période tout à fait intermédiaire entre la période précédente où vous aviez des savants universitaires qui publiaient chez Alcan ou au PUF ou chez des éditeurs purement universitaires un savoir désincarné et presque en dehors de leur propre temps. Et puis je dirais aujourd'hui, vous avez des essayistes à tout va qui donnent leur opinion sur le monde sans être pourvus d'une armature intellectuelle et d'un type de savoir réel. Entre les deux, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir dans cette génération des hommes qui, au fond, disposaient du même type de savoir, étaient aussi savants que leurs prédécesseurs, mais dont les livres, les préoccupations avaient, si j'ose dire, un effet de réel. Un accrochage social puissant, une indentation quasi idéologique et immédiate sur la société.
Cette voix, Anne Simonin, Christophe Prochasson, que vous connaissez bien, celle de Pierre Nora, c'était un extrait d'Avoix nue qui date de 1997. On commence par vous, Anne Simonin. Quel était le Pierre Nora que vous avez rencontré, celui qui vous a accompagné et sans doute celui qui continuera de vous accompagner?
Moi, Pierre Nora, il y a une dimension de Pierre Nora qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est l'enseignant. Et moi, je rencontre Pierre Nora parce que je vais au séminaire de Pierre Nora quand je suis à Sciences Po et que Pierre enseigne à l'EHESS, à l'École des hautes études. Et c'est un séminaire qui est très différent de celui du type de séminaire qu'on suit à Sciences Po. Et je pense que ça, c'est une dimension très importante dans la conception que Pierre Nora se fait et se fera de son métier d'éditeur, parce que il y a une dimension de travail. On travaillait beaucoup quand on était avec Pierre Nora, quand on était étudiant. Puis après, il se trouve que j'ai un peu travaillé pour la revue Le Débat. Et donc, il était effectivement, quand il dit « j'ai été un homme charnière », à la charnière d'un monde universitaire et d'un monde éditorial, puisqu'il était chez Gallimard. Gallimard, la banque centrale, quand même, en termes donc de sciences humaines. Et il va, et c'est un profil très particulier, parce qu'il avait un réservoir à la fois d'idées et un réservoir de méthode, parce que Pierre Nora a aussi inventé un style pour l'histoire dans ses bibliothèques. Mais avant d'être chez Gallimard, il était chez Julliard, et ça a été la collection Archives qu'il a pas créée lui, mais qu'il a reprise. Et ensuite, donc, la bibliothèque des histoires, la bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard, avec Louis Évrard et sa femme, qui était l'assistante de Pierre Nora, Nicole Évrard. Et puis la bibliothèque des sciences humaines. Et donc à chaque fois, il va y avoir la rencontre improbable, un peu à la loterie à Mont, entre des universitaires et un marché. Parce que, voilà, à partir du moment où vous êtes dans l'édition, vous essayez de vendre des livres, et Pierre Nora va vendre des livres. Je rappelle que Les mots et les choses de Michel Foucault sont vendus à 20 000 exemplaires au moment de leur parution. Mais en essayant, en imposant en quelque sorte au marché un style.
Un homme charnière, donc charnière entre des époques, on l'a entendu tout à l'heure en parler, charnière entre des mondes professionnels, entre des mondes sociaux, charnière, on le comprendra un peu plus tard aussi, entre différentes sciences humaines et sociales. Mais quel était, Christophe Prochasson, j'allais dire, l'homme que vous avez rencontré vous-même, le Pierre Nora qui vous a accompagné?
Écoutez, je suis un peu comme Anne Simonin. Je crois que la première fois où j'ai rencontré Pierre Nora, c'est dans le cadre de l'École des hautes études en sciences sociales, où comme l'a
dirigé aujourd'hui.
Que j'ai présidé, mais que je ne préside plus, ça y est, j'ai passé la main. Mais à cette époque-là, comme il me l'avait dit de façon un peu taquine, c'était un peu rosse tout de même, Pierre Nora, que je venais faire ma cour dans son séminaire. Mais plus sérieusement, après, je l'ai connu évidemment comme un collègue à l'École des hautes études en sciences sociales, et surtout, et pour prolonger ce que disait Anne Simonin, en tant qu'éditeur, puisque pendant quelques années, j'ai dirigé les éditions de l'École des hautes études, qui dispose d'une collection très prestigieuse qui s'appelle Hautes études et qui est une coédition avec les éditions du Seuil et Gallimard. Et il se trouve que cette collection était discutée, dirigée du bureau de Pierre Nora, qui nous accueillait dans ce petit bureau, d'ailleurs assez modeste, il faut bien le dire. Je pense qu'Anne Simonin l'a bien connu. Et moi, je l'ai connu, si vous voulez, à un moment où j'avais un peu le sentiment, enfin, je parle du volet éditorial, hein, puisque quand je l'ai connu comme étudiant, c'était autre chose. Mais à un moment où il avait un peu le sentiment que, au fond, ce qu'il avait conduit, c'est-à-dire l'âge d'or, d'une certaine façon, des sciences humaines, n'était plus son monde, qu'il s'en trouvait un peu éloigné, déconnecté, qu'il avouait d'ailleurs sa méconnaissance de ce qui se faisait désormais, et aussi, il faut bien le dire, avec un regard assez critique sur les nouvelles approches qui se développaient et qui tranchaient avec ce que lui avait fait jusque-là.
On va revenir justement sur cette dimension critique. Un mot tout de même sur son grand œuvre, hein, l'ouvrage qu'il a coordonné entre 1987 et 1993, des dizaines de contributeurs dont lui ont façonné, fabriqué ces lieux de mémoire. En quoi, Anne Simonin, cet ouvrage-là a marqué peut-être un tournant et surtout a marqué la génération des étudiants des années 90?
Parce que on a réappris la France dans les lieux de mémoire. Et on a compris que on pouvait continuer à faire de l'histoire de France, qui était quand même un domaine un peu très balisé par toute une école positiviste, en posant des questions qui étaient très modernes à l'histoire de France. Et pour moi, alors je sais que le livre, alors ça a été d'abord parce qu'il y a des articles canoniques dans les lieux de mémoire. Je sais pas, il y a personne qui au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la Constitution de la France, il y a encore que Jean-Luc Mélenchon qui pense que c'est la Constitution de la Ve République. Tout le monde sait que par Jean Carbonnier que c'est le Code civil et ça vient des lieux de mémoire de Pierre Nora.
Mais qu'est-ce qui était novateur dans les années 80 du point de vue de l'historien et du travail en histoire?
Ah bah c'est l'invention de la problématique de la mémoire. C'est Francis Yates qui avait théorisé cette notion des lieux de mémoire, qui le fait en 1976. Mais c'est là où Pierre Nora était. Pierre Nora, c'est un homme qui sent les sujets. Et il va donner à... Vous prenez le livre de Francis Yates, qui est tout à fait intéressant sur le fait que la mémoire peut s'incarner dans ce qu'il va appeler des lieux, c'est-à-dire des constructions, puisque c'est à la fois des lieux réels, type le Panthéon, mais c'est aussi des ouvrages comme l'Histoire de France de Lavisse. Et Pierre Nora va développer ça avec plus de 100 historiens, à chaque fois en créant une architecture qui va permettre à chacun, c'est comme la reine des abeilles qui permet à chacun de trouver sa place dans une alvéole, et en réussissant au fur et à mesure, parce que moi j'ai un peu travaillé pas sur les lieux de mémoire, mais je travaillais de façon assez proche avec lui à ce moment-là, à imposer en quelque sorte le style et la manière de traitement, parce que c'était quelqu'un qui avait une vraie réflexion sur l'histoire, qui se marque par faire de l'histoire, qu'il publie avec Jacques Le Goff en 1974, et qui veut un retour, j'ai envie de vous dire, dans la lignée des annales, à l'histoire politique. L'histoire politique telle que constituée par René Raymond à Sciences Po lui paraît être une histoire qui, pour le coup, est trop positiviste. Et il va réinsuffler, peut-être le regard de Fèvre et de Marc Bloch, à l'histoire politique par le biais des lieux de mémoire.
Pierre Nora, justement, il s'exprime dans l'émission Apostrophe sur Antenne 2 sur ces lieux de mémoire.
J'ai voulu étudier la mémoire nationale et plutôt que de faire des généralités soit sur la mémoire, soit sur la nation, il m'a paru beaucoup plus excitant d'étudier les emblèmes, les symboles, les fêtes, les commémorations, les musées, les archives, tous ces lieux où s'est condensé, incarné, exprimé la mémoire nationale. Que là, on pouvait véritablement étudier toutes les sédimentations de la mémoire, qu'il y avait une force de l'objet, en quelque sorte, qui imposait sa présence. Et puis qu'il fallait évidemment entendre lieu à la fois au sens le plus concret et au sens le plus élaboré du terme. Il y a une espèce de manque, comme une sorte de point aveugle d'une histoire qui ne s'était pas regardée elle-même. Alors, je crois qu'il y a d'ailleurs des raisons pour ça. C'est que tant que nous vivions dans l'intimité, la chaleur de la mémoire républicaine, tant que nous combattions en quelque sorte pour cette mémoire républicaine, on n'éprouvait pas le besoin d'en faire l'histoire et que nous sommes à un moment assez particulier où bascule d'une certaine façon dans l'histoire tout un capital mémoriel que nous vivions spontanément.
Il y a un paradoxe apparent dans les lieux de mémoire, Christophe Prochasson. On l'a dit, c'est un ouvrage collectif, éminemment collectif. Et dans le même temps, il y a beaucoup, il y a énormément de Pierre Nora lui-même.
Oui, alors je me distancierai un petit peu de mon ami et collègue Anne Simonin. Comme elle l'a rappelé, il y a, c'est plus de 100, je crois que c'est 300 collaborateurs au nom de mémoire. Pierre Nora, c'est un historien en nom collectif, c'est vrai, mais il ne faut pas accentuer trop le caractère homogène non plus des lieux de mémoire. Il y a des textes qui disent des choses très différentes en réalité. Et je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup frappé, celui de Madeleine Robériou. On ne pouvait pas faire plus opposé que Pierre Nora et Madeleine Robériou, historienne qui était passée par le communisme, historienne de la gauche, etc. Bon, et qui rigolait bien parce que, disait-elle, elle dit, avec sa voix inimitable que je n'imiterai pas, j'ai dit exactement le contraire de ce que Pierre dit dans son introduction. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop exagérer ça et que les lieux de mémoire, c'est aussi, et c'est un des aspects des lieux de mémoire qui en font une œuvre admirable et qui a marqué son temps, un gigantesque annuaire de l'historiographie française.
Mais qu'est-ce qui en fait l'unité alors?
Alors, ce qui en fait l'unité, c'est en effet ce que très habilement, en grand éditeur qu'il était, Pierre Nora fait en tissant des problématiques, mais qui lit des textes, à mon avis, de façon un peu rhétorique pour certains d'entre eux. Je crois que la problématique des lieux de mémoire, avec cette comment dirais-je, ce sens de la formule qu'avait Pierre Nora, d'ailleurs au point que les étudiants rabâchaient un peu ça de façon mécanique, l'histoire, n'est-ce pas, installe le sacré, plus et moins la mémoire installe le sacré que l'histoire déloge, enfin tout un où il n'y a jamais, on n'a jamais autant parlé de mémoire dans ce temps qui n'en a plus, enfin ce genre de formules étincelantes et qui accrochaient nécessairement l'intérêt de toutes sortes de lecteurs et de lecteurs au-delà évidemment du monde universitaire puisque le terme de lieu de mémoire en a été un peu galvaudé.
Anne Simonin, je vous laisse réagir.
Un lieu de mémoire, c'est quoi? C'est quelque chose qui est labellisé par Pierre Nora et considéré digne de figurer comme lieu de mémoire dans un livre qui est publié chez Gallimard. Il faut tout le temps revenir, quand on a des objets un peu étranges comme ça, à mon avis, à des définitions matérielles. Mais là où c'est vraiment intéressant ce que dit Christophe Prochasson sur Madeleine Robériou, qui écrit un très bel article sur la Commune dans les lieux de mémoire.
Le mur des fédérés.
Le mur des fédérés, c'est magnifique. Et ça s'appelle Le Rouge Sang, c'est ça?
Oui.
Voilà, c'est un très, très, très beau texte. C'est que Pierre Nora, c'est aussi un espace politique. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du débat et de ce moment qu'a été l'expression de ce qu'on appelait la deuxième gauche. C'est-à-dire comment on pouvait avoir une expérience de gauche critique et qui était lestée par un bagage intellectuel. Et ça, je pense que c'est une chose. Alors, ça a été un moment du débat. C'est pareil, il n'y a pas la revue Le Débat qui va durer de 1980 à 2020 pendant 40 ans et qui est morte à 40 ans et qui est morte volontairement à 40 ans puisque Pierre Nora, Marcel Gaucher et Christophe Pomian ont décidé de s'aborder. Mm-hmm. Le débat a été, en tout cas pour ma génération, parce que j'ai vu par exemple Caroline Douki tout à l'heure aux Archives Nationales qui m'a dit, dis surtout ce qu'a été pour nous le débat. C'est-à-dire que même quand on n'était pas d'accord avec eux, on attendait de savoir ce qu'il pensait.
J'ai entendu moi-même Pierre Nora dire une fois que le débat c'était une alambic. Dans le fond, on y mettait un peu ce qu'on voulait et ressortait peut-être de l'intelligibilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Christophe?
Oui, d'ailleurs, c'est un peu dans, comme les lieux de mémoire, d'une certaine façon, qui sont un alambic, puisqu'ils rassemblent des historiens. On citait Madeleine Robert-Hugues, mais on pourrait en citer tant d'autres, qui sont très différents historiographiquement et puisque vous en soulevez la question, Antimonin, politiquement aussi. Alors, je pense que sur ce point qui est important, le positionnement ou l'attitude, le comportement politique de Pierre Nora et facilite ce côté alambic et au fond, comment qualifier politiquement Pierre Nora? Il est d'une génération, il faut le rappeler, où beaucoup de ses amis, la plupart, étaient passés par le Parti communiste et que lui n'y était pas, n'y a jamais mis un orteil. Alors que celui qui a sans doute été à la fois son beau-frère et son plus grand ami, François Furet, y était passé un certain temps. Je crois que ce comportement politique, il l'a un peu d'ailleurs théorisé dans son livre « Historien public ». Hein. Le mot d'historien public est très intéressant parce que...
Il n'est pas un historien engagé.
Exactement. Ce n'est pas un historien engagé, c'est-à-dire celui qui se soumet à la logique d'un parti, aux injonctions d'un parti. Ce n'est pas non plus... alors ça, il détestait et il ne l'a jamais compris. Bon, il venait aussi d'une famille où on était assez loin de tout cela. Il y a un élément évidemment biographique là-dedans. Mais ce n'est pas non plus ce qu'il appelait un historien... Enfin, ou ce qu'on pourrait appeler un historien civique. C'est-à-dire ce qu'il détestait aussi, la façon dont on pouvait embrasser une cause, et c'est pour ça que ça l'agaçait beaucoup, l'évolution de l'historiographie, par exemple, sur l'esclavage, où il sentait qu'il y avait derrière ces travaux-là, au fond, un engagement qui ne voulait pas dire vraiment son nom. Et c'est ce qu'il défend, et ça c'est très intéressant chez lui, l'historien public. C'est quelque chose qu'il a forgé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un historien public? Je crois que, au fond, pour utiliser un mot que les sociologues aiment bien, c'est un historien qui s'engage certes, mais sur des affaires, sur des dossiers précis. Hein. Et on l'a vu au moment des lois mémorielles, on l'a vu même sur des choses comme la Bibliothèque nationale ou d'autres dossiers.
Mais donc sur des thématiques historiennes.
Sur des thématiques, oui, qui avaient... où l'historien qu'il était avait des choses particulières à dire en fonction de son expertise, c'est certain. Mais qui s'engageait sur des points précis.
Comment est-ce que vous caractériseriez vous-même, Anne-Simonin, plus que le positionnement politique de Pierre Nora, son évolution dans le temps?
Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, parce que moi, ce que j'entends dans ce que dit Christophe Prochasson, c'était que pour Pierre Nora, l'historien devait être présent dans la cité, mais qu'il fallait échapper. Et là encore, il y avait quelque chose de créateur au modèle de l'intellectuel engagé sartrien, spécialiste de tout, et qui d'ailleurs lui avait valu des rapports tendus avec Michel Foucault, parce que quand le premier numéro du débat était sorti et que Michel Foucault avait pris, d'après ce que racontait Pierre Nora, un peu personnellement, par rapport au type d'intellectuel qu'il représentait, il y avait effectivement la sortie, en quelque sorte, des années sartriennes, d'une certaine façon. Mais il y a toujours eu, et jusqu'à la fin, et qu'on soit d'accord ou pas avec les prises de position qui ont pu être les siennes, la nécessité, le lien existant entre la cité et l'histoire, pour moi, chez Pierre Nora, qui ne signifiait pas qu'il y avait soumission, mais que c'était quelqu'un qui savait très bien dire non. Et donc, parce que il y a eu plein de moments où justement on considérait les critiques qui ont été faites contre le débat, considéraient que c'était un peu une sorte de dissolvant de la pensée et des aspérités révolutionnaires de la dite pensée de gauche, alors que il y avait des refus très argumentés chez quelqu'un comme Pierre Nora, et puis une dimension que je trouve que peut-être parce que c'est un jour de deuil, mais Pierre Nora c'était quelqu'un de très très drôle aussi, et donc il racontait, c'était un vrai conteur, il racontait beaucoup d'histoires et on riait beaucoup avec Pierre Nora.
Je voudrais remercier Mona Ozouf qui vient de nous rejoindre à distance. Bonsoir Mona Ozouf.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce soir pour évoquer la mémoire de Pierre Nora. Quel était justement votre rapport à lui? De quelle façon vous a-t-il accompagné dans votre travail, dans votre vie même?
Ce sont les deux. Et c'est un jour submergé par l'émotion pour moi. mais où les souvenirs affluent, et je n'oublie pas que j'ai découvert Pierre. C'est une amitié de jeunesse, très lointaine, mais je l'ai vraiment découvert au moment de ma vie où j'ai été un peu rattrapée par le malheur ou l'adversité, et où Pierre m'a enrôlée dans l'équipe ou l'aventure de l'équipe qui travaillait au lieu de mémoire. Et je me souviens parfaitement de l'occasion du séminaire inaugural des hautes études où Pierre a lancé le nom du lieu de mémoire avec toutes les interrogations qu'il suscite et en sollicitant l'auditoire. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas et qui m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre Pierre et à redresser un peu l'image que l'université avait volontiers de lui, comme quelqu'un qui était plein d'idées, mais qui avait comme spécialité de faire écrire les autres et de ne pas écrire lui-même. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a stupéfié, c'est le travail caché de l'éditeur. C'est-à-dire que j'ai découvert l'abnégation de ce métier où tout article reçu d'un collaborateur est jugé pas tout à fait à la hauteur et retravaillé par l'éditeur de diverses manières dans lesquelles je n'entrerai pas, mais où entre énormément de travail. Et encore une fois d'abnégation parce que ce n'est pas visible. Ça n'est reconnu par personne. Si bien que mon vœu le plus cher, et c'est ce qui me console un peu aujourd'hui, un peu seulement, mais un peu quand même, c'est d'avoir vu Pierre écrire à la fin de sa vie les deux livres qui manquaient à son image, c'est-à-dire Jeunesse et le titre m'échappe du second, une obstination, enfin j'ai un peu oublié le titre du second, où Pierre a enfin écrit les livres d'égo-histoire qu'il a extorqué tant de fois à d'autres historiens et livre le secret de son obsession fondamentale qui fait l'unité de son œuvre et qui est le mystère de l'identité nationale, du sentiment national. Ce qui me frappe tellement aujourd'hui, c'est de voir la problématique de Pierre ressurgir à tout propos dans notre actualité, y compris, par exemple, l'interprétation de la victoire de victoire sportive d'un club parisien, qui a été interprété de diverses manières, mais sur cette victoire, on a élaboré quantité d'interprétations. Est-ce la victoire d'un club? Est-ce la victoire de Paris? Est-ce la victoire de la France? Comment l'interpréter? Je trouve que les interrogations de Pierre sont présentes dans tous les débats de notre actualité désormais. Et ça n'est pas fini.
Je ne pensais pas, Momona Ouzouf, que vous feriez le lien ce soir avec la victoire du PSG. Vous avez mentionné un concept qui était cher à Pierre Nora, puisqu'il l'a forgé lui-même, celui d'égo-histoire. Christophe Prochasson, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'égo-histoire?
Alors en effet, c'est un projet très innovant, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'il a demandé à une dizaine d'historiennes et d'historiens de mettre en relation leur travail d'historien avec leur propre histoire. Et je sais, Momona Ouzouf peut-être me démentira, mais j'ai toujours lu ou entendu Pierre Nora, plus exactement, dire qu'il avait été d'une certaine façon un peu déçu par le résultat et sans doute l'extrême réserve qu'avaient manifesté ceux qui avaient été sollicités dans cette aventure, qui n'avaient pas tout à fait joué le jeu. Or, Momona Ouzouf a raison, c'est vrai que dans les deux volumes de mémoire qui sont très intéressants, il est allé jusqu'au bout.
Le second, c'est une étrange obsession.
Une étrange obsession, et malheureusement, il devait y en avoir un troisième, je pense, où il serait allé encore plus loin.
Anne Simonin.
Alors, sur l'ego histoire, d'abord, il y a ce texte immense quand même, et que Pierre reconnaissait tel, qui est celui de Pierre Chaunu, le fils de la morte. Qui est, ça, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire. Ensuite, les hommes et les femmes, Christophe Prochasson. Beaucoup d'hommes et pas tellement de femmes. Hein. Il y avait Michel Perrault et Mona Ouzouf. Michel Perrault sûr.
Donc l'échantillon ce soir n'est pas du tout représentatif de l'entourage réel de Pierre Nora.
Dans les lieux de mémoire non plus, chère Anne.
Oui, voilà. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est aussi un biais. Mais voilà, pas plus qu'autre chose. Mais surtout, l'ego-histoire, c'est quelqu'un... Bon, Pierre Nora a inventé des genres éditoriaux, mais il a aussi inventé un genre universitaire, puisque c'est ce qui s'impose pour tous les gens qui soutiennent ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. C'est un mot barbare.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir rendu hommage à Pierre Nora. Merci beaucoup Mona Ouzouf de vous être jointe à nous. Je rappelle Christophe Prochasson que vous êtes historien, Anne Simonin historienne et Mona Ouzouf historienne. Trois historiens ce soir pour évoquer la mémoire de la mémoire Pierre Nora. Merci à vous trois.